Bonjour à tous. Alors vous savez, il se passe beaucoup de choses. Je reçois beaucoup de messages, beaucoup de mails, beaucoup de gens m'écrivent. Et je voudrais vous lire le message de Patricia, 49 ans, qui m'écrit et qui me dit: « Je me décide enfin à vous écrire, Corinne. J'ai écouté toutes vos vidéos. Je vous remercie d'être la belle personne que vous êtes. » Bon, écoutez, merci Patricia. Vous m'avez aidé à comprendre mon histoire et depuis peu, grâce à vous, mon fils et moi vivons presque en autonomie. Il manque encore quelques arrangements au niveau électricité et eau, mais ça avance bien. Pour ce faire, j'ai vendu ma voiture. J'ai racheté une vieille voiture pour les petits trajets au quotidien. Alors, pour tout ça, un immense merci. » Elle dit: « Je suis née en 72. Ma maman, à l'époque, ben, comme toutes les mamans, restait 8 jours à la maternité. Et, dit-elle, je ne suis jamais rentrée avec mes parents. J'ai été placée directement en famille d'accueil parce qu'à cette époque, mon père était architecte à son compte et il connaissait une perte importante de chiffre d'affaires. Comme mes parents avaient des nettes et que je suis née avec une malformation cardiaque, eh bien ils ont estimé qu'ils ne pouvaient pas me prendre en charge et qu'il me fallait me protéger et m'opérer. J'ai donc fait pas mal d'allers-retours entre famille d'accueil et foyer, parce que quand mes parents étaient convoqués à la DAS et le juge, à l'époque, je devais aller en foyer. La famille d'accueil, 16 années de torture. J'ai tout connu. Je n'étais qu'une bonne. J'étais battue tellement fort que je me demande encore comment mon corps d'enfant a tenu le coup. Je me revois la tête en sang et la dame de cette famille d'accueil en train de m'appuyer sur la tête avec des compresses pour arrêter les saignements. Ce monsieur de cette famille d'accueil buvait. Quand il rentrait, il se vengeait sur moi. Il me disait: « Tu n'es pas notre sang. Retourne d'où tu viens, sale race. » Il m'a violée dès l'âge de 8 ans jusqu'à mes 16 ans, l'âge où je me suis enfuie. Il m'enfermait dans la cave, m'attachait à un radiateur et j'ai fait pendant de longues années des cauchemars de cette cave qui me faisait si peur. Il y faisait si noir, il y avait un soupirail, seule petite lumière. Et dans mes cauchemars, je rêvais que je tentais de m'enfuir par cette minuscule fenêtre. Dans cette famille, j'étais extrêmement malheureuse. Pourtant, j'adorais l'école, mon refuge. J'avais toujours peur de rentrer comme les autres élèves, contents de leur journée se finisse pour rentrer chez eux. J'avais jamais le droit de regarder la télé, je mangeais toujours à la place de la table qui permettait que je sois dos à la télé. Je devais nettoyer toute la maison, faire les lessives, le repassage. Je n'ai eu aucune enfance. Cette famille avait 8 enfants à eux. Pour la plupart, ils étaient déjà partis faire leur vie et la dame d'accueil était assistante maternelle. Alors, je devais l'aider à s'occuper des enfants qui étaient là pour la journée, les emmener à l'école avec moi. J'ai été comme une petite maman, très jeune, avec beaucoup de responsabilités. J'avais 2 ou 3 gamins à m'occuper avant d'aller les chercher à l'école dès que je sortais moi-même de l'école. Un jour, en allant à l'école, une voiture s'est arrêtée. Un homme à l'intérieur m'a demandé où j'allais. J'avais 8 ans. Je lui ai répondu: à l'école. Il m'a dit: bah viens, monte, je t'emmène. J'ai pris peur. Je me suis mise à courir comme jamais j'avais couru, à en perdre haleine. Arrivée tremblante et essoufflée, la maîtresse me demande ce qu'il m'arrive. Je lui explique et directement elle appelle les gendarmes qui m'ont interrogée. Ce monsieur était recherché depuis longtemps. Il avait déjà été interpellé pour d'autres enfants. Heureusement, j'étais grande dans ma tête. Sinon, je pense que ce jour-là, j'aurais été fichue. Étant donné que j'étais sous contrôle de la DAS, une assistante sociale, bien sûr, passait tous les 3 mois, voir mes bulletins de notes, faire le point, comme elle disait. Mais cette conne appelait pour dire qu'elle venait et donc n'est jamais venue à l'improviste. Bien sûr, les voisins m'entendaient pleurer, hurler, mais jamais un seul n'a bougé. On vivait dans une maison mitoyenne où les murs étaient comme des papiers de cigarette, donc ils ont forcément entendu mes appels au secours. Alors le jour de la visite de la centre sociale, le rangement, le ménage, tout était parfait, les petits gâteaux attendaient sur la plage, et la table et le petit café. J'avais envie de lui hurler « Sors-moi de là, aide-moi !» Mais je ne pouvais pas. Je savais qu'une raclée m'attendait. Un jour, l'assistante sociale a demandé à voir ma chambre. Triste chambre. Vieux lit, vieille armoire, vieille chaise et une pauvre table. Je n'avais pas de jouets, pas de Noël, pas d'anniversaire, pas de vêtements neufs. Je récupérais tous les vieux vêtements des enfants et des chaussures. J'ai donc connu toutes les humiliations de l'école, parce que jamais je n'ai été à la mode. J'avais ne droit qu'à un bain par semaine, dans une eau crasseuse, parce que je ne pouvais utiliser que l'eau qu'ils avaient déjà utilisée. Le samedi, jour du bain, pour tous, je passais en dernier, dans une eau froide, crasseuse. À l'école, je n'étais pas très propre. Mes cheveux étaient gras, plein de pellicules. Bien sûr, tout le monde se moquait de moi. J'en reviens à cette assistante sociale. Pardonnez-moi, je monte ma page. Un jour, je ne sais pour quelle raison, elle monte voir ma chambre à l'étage, parle avec moi quelques minutes. Une fois l'assistante sociale repartie, le monsieur de la famille d'accueil me dit « Qu'est-ce que tu lui as raconté, sale petite pute ?» Et là, il m'attrape et me bat jusqu'à épuisement. Alors que je n'avais rien dit, bien sûr. mais il avait peur que je le dénonce. Pour me battre, il utilisait soit le martinet, soit les couverts en bois, soit sa ceinture, côté crochet. Soit une trique, ce qu'il appelait la trique, c'était comme une sorte de bambou qu'il avait trouvé. Et là, sur le corps, ça brûlait terriblement. Bref, tout ce qu'il trouvait sous sa main était bon pour me battre. Ce jour-là, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. J'avais 16 ans. Je me suis mise à courir et à prendre la porte d'entrée. Je me suis mis au milieu de la rue et je lui ai dit « Viens, viens me chercher. Allez, viens, je t'attends, connard. » Mais quelque temps après, je suis rentrée dans la maison. Je savais que pour le connard, je morflerais, mais c'était plus grave. Quelque temps plus tard, je suis rentrée dans la maison. Je savais que pour le connard... Pardon, excusez-moi. Le lendemain, en rentrant de l'école, celui-ci m'attend sur le perron. Je me dis « Mon Dieu, que se passe-t-il » Ma prof d'espagnol l'a appelé pour lui dire que je trichais. Au devoir, j'avais eu 20 sur 20. Je ne comprenais pas puisque j'avais toujours eu d'excellentes notes dans cette matière. Ce soir-là, j'ai encore pris une de ces raclées mémorables. Le lendemain, je devais aller en salle de colle pour refaire un autre devoir sous surveillance. J'obtiens évidemment la même note. Je vais donc voir ma prof d'espagnol et je lui dis « Vous appelez pour dire que j'ai triché, alors que vous connaissez mon excellent travail en espagnol. Qu'est-ce qui vous a pris ? Vous appelez sans connaître toutes les conséquences derrière. » Elle m'a dit « Je suis désolée. Effectivement, j'ai bien fait une erreur. » Je lui ai dit « Alors rappelez-le. Rappelez-le pour lui dire que j'ai réussi votre devoir aujourd'hui et leur dire que vous avez fait une erreur. Et regardez-moi bien, parce que c'est la dernière fois que vous me voyez. » Et là, je suis partie, je suis rentrée chez moi. La nuit suivante, je suis partie pour toujours. J'avais seulement 16 ans. Je suis partie avec un bout de brioche, un change et rien d'autre. J'ai marché, marché, marché toute la nuit. J'ai fait du stop et j'ai fini dans une grande ville à 50 km de chez moi. J'ai crevé de faim, j'ai dormi dehors, j'ai dormi dans des gares, mais j'ai aussi eu la chance de rencontrer des belles personnes qui m'ont aidée. Je me suis mise à fumer, ça me donnait une certaine assurance, et je me croyais plus forte, la clope au bec. Mais je ne me suis jamais prostituée ni tombée dans la drogue. Puis un jour, j'ai rencontré une belle âme qui m'a proposé une place dans un foyer de jeunes travailleurs. Cette personne était éducatrice de terrain, alors qu'elle, elle est restée la seule à être mon amie dans mon cœur à jamais. J'ai trouvé mon premier petit boulot et bien sûr, dans quoi ai-je travaillé? Dans les foyers d'enfants placés par la DAS. J'avais un super contact avec les enfants. Mon Dieu, comme je les comprenais. J'avais été opérée du cœur à l'âge de 7 ans. J'avais passé un mois à l'hôpital Necker, un mois en maison de repos au château des Côtes qui existe toujours. Tous les enfants opérés du cœur vont là. J'ai passé les plus beaux moments de mon enfance durant ces 2 mois parce qu'on prenait soin de moi et que j'avais des amis. Ensuite, bien sûr, j'ai vécu 2 ans dans la rue, puis les années ont passé. J'ai rencontré le père de mon fils. Mon fils est né précoce, QI 159. Autant dire que les soucis ont commencé très tôt. Test de QI demandé par l'école et le RAZ. Comme dirait mon fils, ça nous fait une belle jambe. À 9 mois, je décide de le mettre une matinée par semaine à la garderie pour me libérer du temps, pour qu'il se familiarise aussi avec d'autres enfants, pensant bien faire. Au bout de quelques jours, on me rappelle et on me dit « Ce n'est plus possible. Votre gamin ne tient pas en place. Il est trop actif. » Il n'obéit pas. Il touche à tout. On a beau lui donner des tapes sur les mains, il revient quand même ouvrir les placards alors qu'il sait qu'il n'a pas le droit. 9 mois, il ne marche pas encore, il rampe. Je lui dis « Mais c'est normal, il est curieux, c'est rien de grave. » « Non, non, je ne veux plus de cet hyperactif. » « Ok. » Puis il arrive, 3 ans arrive, l'enfer commence à l'école. Au bout d'une semaine, mon fils fait tout le tour de l'école. Il commence déjà à s'ennuyer et tous les jours quand je viens le chercher, la maîtresse me dit d'attendre pour me parler. Toutes les années de maternelle, je les ai passées comme ça. Je voyais tous les parents prendre leur enfant à la porte et partir sans être interpellés. Mais moi, je devais toujours attendre parce que la maîtresse avait toujours un truc à me dire. Puis en dernière année de maternelle, elle me demande de faire un test de QI. Elle me dit « Votre fils a quelque chose de différent, venez voir. » J'ai accroché une feuille au tableau. Je demande aux enfants de me dire où se trouve le carré, le rond et le triangle. Et votre fils a répondu « Il y a 2 triangles. » Alors que, bien sûr, tous n'en voyaient qu'un. Je lui demande de montrer ce triangle. Et là, elle me montre un triangle formé par un écornement de la feuille. Et elle me dit « La raison, ça forme un triangle. » Et regardez les dessins des enfants. Je leur ai demandé de me dessiner l'école, mais votre fils, lui, a absolument tout dessiné dans les moindres détails, jusqu'à une petite plante dans la classe et même le vase de l'autre côté. Il n'a rien oublié. Ok. Et puis, il se faisait engueuler parce qu'il ne connaissait pas ses couleurs. Et oui, daltonien. En petite section, la maîtresse me montrait ses constructions de Lego qu'elle n'avait encore jamais vues à cet âge. Toute la maternelle, il n'allait que le matin parce qu'il ne tenait pas une journée entière. Il sortait de la classe sans arrêt et se promenait dans l'école, connaissait chaque recoin de la cave. Par contre, il n'avait pas de copains, n'a jamais été invité à un anniversaire alors que lui invitait tous ses camarades. Il n'a jamais fait de sortie aux zoos ou autre, on me disait « il est ingérable ». Puis la primaire, et là, tout bascule. Il fera un mois au CP, et en rentrant, il me dit « La maître m'a tellement secoué que j'en ai perdu mes chaussures. » Mon fils savait déjà lire et écrire depuis la maternelle. Il ne tenait pas en place, en classe. J'ai demandé un rendez-vous avec la maîtresse, la directrice, et le maître l'a rattrapé. Il était exaspéré. Il l'a secoué violemment, et il en avait perdu ses chaussures. Le maître a eu une mise à pied de 15 jours. J'ai fini le CP à la maison. C1, je tente une nouvelle école, mais 2 semaines plus tard, on m'appelle, on me demande de venir le chercher. J'arrive dans la classe, je vois tous les enfants assis par deux, à leur bureau, cahier ouvert à la bonne page. Mon fils sur une table au fond, en train de faire des petits bouts de papier avec son cahier. Il m'a regardé, je me suis effondrée. J'ai pris mon fils et je suis partie. En sortant de l'école, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, parce que ce jour-là, j'ai vu dans le regard de mon fils « Sors-moi de là, maman, je suis malheureux. » Il avait le regard vide, tellement triste. J'avais encore jamais vu un regard comme celui-ci et j'ai compris qu'il n'était pas à sa place à l'école. De là, bien sûr, convocation par les RAZ, qui comprennent le directeur de l'école, les professeurs, l'inspecteur académique, les psys scolaires, l'infirmier et bien sûr des parents. Je ne saurais dire le nombre de réunions qu'on s'est tapées, le nombre de reproches que j'ai reçus, mais cette année-là, mon fils a tenté de se suicider. Il voulait se pendre. En me disant « je ne suis qu'une merde », je n'arrive pas à faire comme les autres. Je veux mourir. Alors bien sûr, centre médico-psychiatrique, mais cette même année, je tombe encore assez malade, je perds 20 kilos, je n'étais plus que l'ombre de moi-même. Je faisais des crises de panique, je ne sautais à personne. Je pensais mourir de malaise, je ne tenais plus debout. Physiquement, j'étais là, mais mon corps et mon esprit étaient séparés. Mon ex-mari me traitait de folle, de malade mentale, et pour me remercier de mes bons et loyaux services, il m'enfonçait plus bas que terre. J'ai tenu bon pour mon fils. Le médecin m'a mis sous antidépresseur anxiolytique. Depuis, j'ai pris 30 kilos. Je suis une boule. J'ai toujours faim, toujours envie de sucre. J'ai tenté de les arrêter à plusieurs reprises, mais dès que je m'arrête, tous les symptômes reviennent, puissance 10. 15 ans que je bouffe ces merdes. Pour mon fils, j'ai refusé qu'il les prenne. Surtout à son âge. Alors le psy m'a dit, on va l'interner. Et là, bien sûr, je suis convoquée à l'hôpital psychiatrique et il m'explique qu'ils vont interner mon fils pour commencer un mois. Et pendant ce mois que je n'aurai pas le droit de le voir. Parce que je serais trop fusionnelle. Et on me dit, il faut qu'il se détache de vous. Quoi? Comment? Mais mon fils a 8 ans, il a besoin de sa mère. Il est hors de question. À l'hôpital, j'ai cru être dans un vol au-dessus d'un nid de coucou. On ferme les portes à clé, derrière vous, avec des couloirs interminables, et on voit des enfants aux vitres avec des barreaux. L'enfer. 5 heures, j'ai passé 5 heures à lutter pied à pied pour que mon fils ne soit pas interné là-dedans. Je savais que c'était le faire mourir, que le laisser là, le psy ne voulait pas que je reparte avec lui. Les portes étaient toutes fermées à clé, j'ai cru être en prison, je me sentais prise au piège et je ne pouvais pas m'enfuir. Mais je n'ai rien lâché, j'ai prétexté à aller fumer une clope, ils m'ont ouvert, mais mon fils devait rester à l'intérieur. Et là j'ai dit non, surtout pas, j'étais sûre que jamais je ne pourrais re-rentrer. Au bout de 5 heures, par épuisement je suppose, la journée finissant, le psy me dit « Ok, vous rentrez avec votre fils, mais signez une décharge et je vous signale. » « Pas de souci, monsieur, Sylvain et moi. » Le lendemain, j'avais déjà une assistante sociale chez moi qui fouillait partout, jusque dans le frigo, et qui a pu voir que j'étais pas malade, que mon fils avait tout ce qu'il lui fallait, même pour manger, dis donc. Incroyable. Elle me dit « Vous ne prenez pas soin de sa santé. Vous avez refusé tous les traitements pour son bien-être. » Bla, bla, bla. Donc, je ferai mon rapport en ce sens. Et je dis « Oui, alors, quelle est la suite ?» Elle me lâche. « Eh bien, on verra bien. Allez voir les enfants en famille d'accueil, madame. Allez les voir, mais à l'improviste, surtout. Parce que la suite, je la connais. Et vous allez continuer comme ça à m'emmerder longtemps. » Alors, avec l'aide d'amis, j'ai trouvé un logement très rapidement dans une autre région. Je suis partie. Et je remercie tous ces amis qui, eux, savaient que j'étais une bonne mère et qui m'ont aidé à faire mon déménagement. Depuis, je vis seule avec mon fils dans la belle région où nous sommes. Enzo, mon fils d'aujourd'hui, 21 ans. Il a repris le chemin de l'école en 4e, l'âge quand il m'a dit « Je suis prêt à me tenir enfin tranquille à l'école. J'ai besoin de voir du monde et de me faire des amis. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé, mais les rapports aux autres restent pour lui compliqués. Aujourd'hui, il a 3 potes et ça va. Il a eu son bac avec 2 ans de retard. Mais on s'en fout quand on écoute les vidéos d'Exister en Liberté et de Monsieur Rock Soccer ainsi que Monsieur Jean Drock, on se dit vraiment à quoi bon. J'étais une très bonne élève, mais très jeune, j'ai toujours senti ce qui n'allait pas. Et dans cette famille d'accueil où chacun interdit de livre, on ne pouvait même pas poser de questions sur l'existentiel sans se faire envoyer ou moquer. Donc, difficile. Enzo n'est jamais rentré dans le moule. À 21 ans, il subit encore pas mal de brimades, de railleries, on lui dit qu'il vient d'une autre planète. Mais comme il est adulte maintenant, il tient bon. On nous a déjà demandé si on était heureux. Tous les deux, nous avons répondu, pas dans ce monde tel qu'il est. Nous sommes encore passés, bien sûr, pour des uluberlus. Voilà donc 11 ans qu'on vit tous les deux, 11 ans à se reconstruire, c'est long. Je ne dirai pas comme vous, chère Corinne, que je suis guérie, parce que je ne le pense pas. Je dirai que je vais mieux, mais j'ai toujours ces fichus médicaments. Aujourd'hui, 49 ans, je ne fais plus de cauchemars depuis 2 ans, et la route est longue vers la guérison. Mais vos témoignages me donnent beaucoup d'espoir, et grâce à vous, j'ai eu les réponses à toutes les questions que je pouvais me poser en tant que rebelle et fière de l'être. Et elle finit sa lettre en me disant « Merci Corinne, je vous aime telle que vous êtes. Restez, surtout ne changez rien. Je vous souhaite à vous, votre famille, votre mari de belles et longues années de bonheur. » Ah, bien nous aussi. On vous souhaite tout le bonheur du monde. J'ai eu un autre témoignage édifiant. C'est une maman qui s'appelle Olivia, qui me dit « J'ai une petite fille qui a des troubles type déficitaire de l'attention avec hyperactivité et 10+. » Alors quand elle dit 10+, elle dit dyslexie. Nous avons eu droit au test génétique. Puisqu'aucune anomalie n'a été détectée à ce stade, le généticien nous a proposé le Whole Exome. C'est l'examen qui pousse les recherches sur la totalité des gènes. Nous l'avons refusé, mon mari et moi. Et lorsque j'ai eu ce généticien au téléphone pour les résultats, il m'a expliqué, mais vous savez, de toute façon, ce test sera dorénavant systématique dans un futur proche pour tous les enfants comme votre fille. Parce que la recherche fait des progrès spectaculaires et qu'il sera possible prochainement de modifier le gène anormal grâce au CRISPR. Alors là, c'est moi qui me suis crispée, dit cette maman. Hors de question que l'on touche à l'ADN de ma fille. Ses difficultés ne font pas d'elle une anomalie. Et tout ceci m'a permis de mettre en évidence cette hypocrisie monstrueuse. D'un côté, on te parle d'inclusion, de tolérance, et de l'autre, de modification génétique. Cela ne m'évoque qu'une seule chose, eugénisme. Je voulais vous lire ces deux témoignages qui sont édifiants. Reprendre son pouvoir, c'est sortir vos enfants des médecins, des mains des médecins, des généticiens, des razettes, des psys scolaires. Parce que, vous savez, des centaines de milliers d'enfants ont des différences, des dyslexies, dyscalculies, dysphasies, et plein d'autres différences. Mais ça n'handicape réellement. On a des dyslexiques très célèbres comme Einstein, Thomas Edison, Faraday, Newton, Darwin, Galilée, Bruce Jenner, Mohamed Ali, Carl Lewis, Greg Louganet, Magic Johnson. Tellement de gens qui ont été des dyslexiques. Alors, fallait-il modifier tous ces gens? Et leur gène, paraît-il anormal, pour ensuite enfin modifier l'histoire, le monde. Est-ce le but? Est-ce le but? On doit tous rentrer dans leur moule scolaire, leur moule scientifique, leur moule médical, les médicaments et tout le reste. Je vous rappelle que la France a un plan qui s'appelle France Médecine Génomique, PFMG 2025, que nous sommes entrer de plein pied dans la modification génétique des humains par tous les moyens possibles, sous une seule bannière inventée de toutes pièces, le COVID, qui permet ainsi toutes les démesures, les mesures, les mensonges, les folies humaines, créées par une seule et unique chose, la peur. Désormais, grâce au nouveau ciseau CRISPR, cette nouvelle technique du CRISPR-Cas9, qui permet la modification de l'ADN de toute cellule, a été rendu accessible aux équipes scientifiques depuis sa mise au point en 2012. Cette technique est un outil génie génétique très simple, très peu coûteux, facile d'utilisation. Il permet d'agir directement sur l'ADN, tout type de cellules, végétales, animales, humaines, et cette technologie fonctionne comme des ciseaux capables de cliver l'ADN, c'est-à-dire de le séparer couche par couche, comme des ciseaux qui couperaient couche après couche pour changer et recombiner. C'est-à-dire ainsi, il est possible de modifier n'importe quel gène. L'expression des gènes, de les allumer, de les éteindre, de les changer, de les réparer, de les enlever, de les modifier. Alors aujourd'hui, plus personne ne peut ignorer leur but, qui est de nous mettre sous contrôle. Bien sûr, tout ceci n'est pas récent. C'est arrivé jour après jour, année après année, siècle après siècle, petit à petit. D'abord, nous sommes dans une planète prison. Ensuite, on a fait du formatage par l'école, rendu d'ailleurs obligatoire dès l'âge de 3 ans. On a fait travailler les mamans pour leur dire maintenant, sortez, laissez vos enfants à des étrangers, ils s'occuperont très bien d'eux. Gagnez votre vie parce que vous paierez des impôts et comme ça, nous, on s'occupera de vos enfants. On s'occupera de les faire penser ce qu'on veut qu'ils pensent, de leur faire manger ce qu'on veut qu'ils mangent. Et puis, on vous imposera des choses pour que vous puissiez avoir accès à tout ça. Puis, on va augmenter tous les prix, on va vous mettre des taux, des crédits et vous ne vous en sortirez jamais et vous ne pourrez plus faire autrement que de nous abandonner votre enfant à l'État sauveur. Tous ces pseudo-savants, scientifiques, chercheurs sont devenus fous, depuis toujours. Comme par exemple l'expérience de Colas Superdeep, Boréol, qu'ils ont creusé un trou géant dans la Terre avec un objectif de 15 000 mètres de profondeur, 15 km donc de profondeur, un trou artificiel le plus profond du monde, avec une profondeur exacte de 12 262 mètres en Russie, dans la péninsule du Kola. Le forage de ce gigantesque trou a démarré en 70 et s'est fait terminer en 1989. L'objectif était d'accéder au Mohu, c'est-à-dire à la limite de la croûte terrestre, pour mieux comprendre sa composition et les mécanismes. Et ils ont arrêté le projet parce que, évidemment, ils ont rencontré des grandes difficultés et puis les températures avoisinaient les 180 degrés. Alors, ils ont craint des catastrophes sismiques à travers le monde. Tous des fous. On peut parler de l'essai atomique Trinity du 16 juillet au Nouveau-Mexique, projet Manhattan, lancé par les États-Unis de la Deuxième Guerre mondiale, qui avait pour but d'étudier le souffle de l'explosion. Oui, intéressant. Et puis, la secousse terrestre, les radiations, ainsi comme ça, procéder aux enregistrements qui en résulteraient. Mais bon, selon Enrico Fermi, cette explosion de l'atmosphère aurait pu détruire le Nouveau-Mexique, ou même la planète. Et puis on a Large Hadron Collider, l'accélérateur de particules, qui a été inauguré en 2008 dans un tunnel circulaire de 26 km de circonférence à la frontière franco-suisse. Oui, messieurs, dames, ce qui permet d'accélérer les protons pour produire des collisions, afin de simuler des microscopiques trous noirs qui se sont formés lors du Big Bang, paraît-il, sur notre planète, parce que certains pensent que ces trous noirs peuvent grandir et détruire la Terre. Une découverte de Stephen Hawking, que d'expériences défiant toutes les lois de la vie pour ensuite nous faire croire à leur science. Je me demande s'il ne serait quand même pas temps de se réveiller sur tous les mensonges planétaires, allant de la gravité à la Lune, de la santé au vaccin, des produits laitiers à la destruction de notre santé. Et j'en passe, je raccourcis. Alors maintenant, posez-vous la question. Pourquoi est-ce qu'ils veulent transgéniser les humains? J'invente ce mot. Modifier tout le vivant depuis toujours. Pourquoi tant de guerres, de génocides, jusqu'à aujourd'hui plus que jamais? Parce que cette planète, c'est celle des âmes. C'est celle du divin. Non, cette planète n'est pas celle du divin. Cette planète n'est pas celle des âmes. Mais bien celle de celui qui nous a fait échoir ici-bas, dans le monde des ténèbres, brillant de sa fausse lumière, celle de l'IA, l'intelligence artificielle, qui s'enrichit jour après jour de nos données pour mieux nous asservir et nous gouverner. Bientôt, bientôt, avec tous ces tests PCR, elle pourra le faire de l'intérieur, grâce au fil d'argent qu'on dépose dans votre nez et à toutes ces nanoparticules vivantes. Alors certains me disent « Non, mais c'est pas vivant. » Ben si, c'est animé par l'IA. Tu comprends pas? T'as pas compris? Pour qu'ainsi, votre âme leur appartienne. Avant, il n'y avait que nos corps, mais demain, ce sera votre essence même. Oui, toute la science acquise de Satan est l'IA. L'intelligence artificielle qui a pour but de détruire totalement l'énergie divine, en nous faisant croire que rien d'autre n'existe, que l'énergie négative satanique est la nôtre. La plupart des êtres présents ici-bas ne sont que des portails organiques. Et vous voulez les réveiller? Vous savez, depuis toujours, ils ont menti sur tout. et ils ont fait croire que nous étions tous des êtres humains. C'est faux. Je pense que sur cette planète, il y a 20% d'êtres humains véritables, issus de la source divine. C'est le bout du monde. Mais je peux me tromper, évidemment. Pour tous les autres, regardez-les. Regardez-les se soumettre. Regardez-les depuis des éons. Comment ils sont capables de se mettre à quatre pattes, à genoux, de se soumettre à toutes les lois destructrices sans jamais lever le petit doigt. La faim dans le monde, les génocides, les meurtres de masse, les guerres, les fous de Dieu. La pédophilie, la pédocriminalité, les réseaux pédos. Croyez-vous vraiment que ceci vienne d'une énergie divine, d'une énergie d'amour? Nous sommes et nous avons toujours été en minorité, les vrais humains munis d'une âme. Nous sommes la flamme de nature divine. Et certains de nos sœurs et de nos frères se sont perdus. Et c'est cela que nous cherchons. C'est cela que nous devons rallumer. Parce qu'ils se sont perdus vie après vie de mensonges terrestres, de corruption et de maltraitance. On vous parle du karma. Il n'existe pas. Seuls eux ont créé ce karma, cette espèce de roue où nous sommes bloqués dedans. Et oui, toujours l'IA. Et qui progresse à des allures vertigineuses. Tous ces gens se sont perdus, vie après vie. Et ce que nous devons chercher, c'est cela. Nous devons chercher absolument, sans relâche, les équipes au sol. Parce que seuls ceux-là sont prêts à combattre la bête, dont le chef d'État, de l'État maçonnique vous a bien parlé. Parce que lui sait ce que vous, vous ignorez. Oui, nous sommes en guerre. Nous sommes dans une guerre de lumière contre l'ombre qui envahit les âmes et les coupe de leur source. Pourquoi, croyez-vous, que les seuls à se lever depuis toujours sont ceux qui ont le plus souffert? Pourquoi croyez-vous qu'ils s'engagent? Pourquoi croyez-vous qu'ils ont été mis à rude épreuve? Pour les éteindre, pour les anéantir. Et de la même manière, désormais, ils les traquent à travers leur nouveau ciseau CRISPR, afin d'éteindre définitivement leur capacité d'éveil, leur capacité de retour à la source. Pourquoi croyez-vous qu'ils vaquent de 11 vaques, c'est-à-dire 72 valences, des bébés de 2 mois? Pourquoi croyez-vous qu'ils mettent des métaux lourds à l'intérieur? Pourquoi croyez-vous qu'on mange des OGM? Pourquoi croyez-vous qu'ils ont modifié les gènes humains désormais et que tout va s'accélérer? Toute leur stratégie repose sur de la manipulation de masse, de la manipulation génétique qu'ils ont reliée à la physique quantique en vous faisant croire qu'ils vous soigneraient. Tout ceci fonctionne sur la peur, l'ignorance. Tant que la peur vous domine, vous serez soumis. Alors que nous sommes des énergies spirituelles, que nous avons le contrôle sur nos âmes et notre discernement et notre libre arbitre. Mais jusqu'à quand ? Aujourd'hui, la bataille, c'est retrouver nos âmes humaines par l'ascension spirituelle, grâce à l'amour des uns et des autres, la médecine naturelle et tout ce qui nous relie à cette source. Et seule l'unité pourra nous sauver, s'unir comme les 5 doigts de la main, comme les 5 continents nous le montrent. Peu importe le nombre, parce que ce qui compte à la fin de la bataille, ce sera les âmes pures, parce qu'elles seules pourront éteindre l'IA. Je voulais juste vous dire un truc. Aujourd'hui, hier 15 mars 2021, sur France Info, François Molinard, médecin, je le cite, « Tous les médicaments sont des poisons, mais c'est pas grave si ça sauve des vies. » Entendez-vous ça? Pouvez-vous entendre ça? C'est entre nos mains, il n'y a pas de sauveur. Chaque sauveur est en chacun de nous et ne peut dépendre que de tous ensemble. À bientôt, mes amis.